On va rester sur le thème d'adorer le Seigneur ce matin à travers un passage dans Exode chapitre 34. Mais la question c'est qui est-ce qu'on adore? Qui est ce Dieu qui nous invite à l'adorer? Qui est votre Dieu, qui est notre Dieu, que nous adorons ce matin? Le temps que vous trouvez donc Exode, juste quelques versets de Luc 9, où Jésus posait une question importante à ses disciples lorsqu'il leur disait « Qui suis-je au dire des hommes ?» Et ses disciples répondirent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes qui est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Ce matin, c'est bien beau de dire qu'on est venu adorer le Seigneur, mais qui est ce Seigneur que nous venons adorer, qui est notre Dieu? Donc, Exode chapitre 34, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Donc, je suis sûr, vous vous rappelez tous ce moment où Moïse descend de la montagne après avoir rencontré Dieu, après avoir reçu les tables de la loi. Et rien que le temps que Moïse était monté sur la montagne, le peuple d'Israël s'était rebellé, s'était parti dans leur péché. Et donc Moïse, en voyant à quel point ils se sont retournés si vite contre Dieu, avait brisé les tables en les jetant par terre dans sa colère. Donc Dieu dit, apporte encore deux tables de pierre et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Donc cette question que Jésus a posée aux disciples est une question importante pour nous aussi de pouvoir répondre qui est ce Dieu, parce que finalement notre objectif vis-à-vis de ce Dieu, c'est le même objectif que ce que cette révélation de Dieu a créé dans le cœur de Moïse. Dès que Dieu se révèle, dès que Dieu lui montre qui il est, Moïse réagit en s'inclinant à terre et en adorant ce Seigneur qui vient de se révéler à lui. Nous aussi, le Seigneur nous invite, et ça a été souligné maintes et maintes fois ce matin dans mes prières, dans les partages, dans les chants, que le Seigneur nous invite à l'adorer, mais donc il est important, du coup, de nous assurer que celui que nous adorons est le Dieu qui se révèle dans la Bible être le seul vrai Dieu au-dessus de tout. C'est important de savoir qui nous adorons parce que, en Jean 17, verset 3, par exemple, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Important donc de nous assurer que celui que nous adorons est ce seul vrai Dieu. Donc, puisque c'est celui-là qu'on est censé connaître et qui désire qu'on le connaisse, c'est celui-là qui nous donne la vie éternelle. Et cette réponse à la question « qui est notre Dieu ?» va influencer donc notre manière d'atteindre ses objectifs d'adorer le seul vrai Dieu. Donc, quand on regarde la révélation de ce Dieu dans la Bible, on se rend compte que le Dieu que nous sommes appelés à adorer est d'abord un Dieu d'amour. C'est un des aspects qui est au cœur de la révélation du Dieu dans la Bible. Déjà, il l'a souligné lui-même lorsqu'il s'est révélé à Moïse, en disant que donc il est riche en bonté et en fidélité et il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mercredi soir, dans la réunion de prière, on avait lu dans 1 Jean chapitre 4 et dans 1 Jean 4 verset 16, l'apôtre Jean dit carrément « Dieu est amour ». C'est sa nature même, c'est la définition de Dieu, ou Dieu est la définition de ce qu'est réellement l'amour. Et c'est intéressant de voir que depuis le début, cet amour qui est au cœur de la personne de Dieu est le point sur lequel l'ennemi s'est attaqué, c'est le point que l'ennemi a essayé de démolir dès le jardin d'Éden. C'est intéressant donc dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a cette relation privilégiée entre Dieu et Adam et Ève, lorsque Dieu marchait dans le jardin avec eux, partageait avec eux, et leur avait dit simplement de ne pas se rebeller contre lui en mangeant ce fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, que le serpent vient tout de suite essayer de faire douter de cet amour, de cet intérêt que Dieu avait pour ses créatures. Dans Genèse chapitre 3, donc, à partir du premier verset, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » L'ennemi donc, dès le début, cherche à semer le doute dans le cœur de l'être humain en disant, Dieu ne dit pas cela parce qu'il vous aime. Dieu ne dit pas cela parce qu'il veut ce qui est le mieux pour vous, parce qu'il veut vous protéger. Si Dieu vous dit cela, si Dieu vous dit de ne pas manger de ce fruit, c'est parce qu'il veut vous empêcher d'atteindre votre potentiel. Il veut vous empêcher d'être comme lui, d'être à la hauteur de Dieu. Il veut vous limiter pour que vous restiez ses esclaves. Il ne veut pas que vous connaissiez ce bonheur-là. Alors que finalement, la révélation biblique et l'histoire nous montrent que Dieu, au contraire, agissait par amour, car il connaissait quelles seraient les conséquences de ce choix de se rebeller contre lui et de faire entrer le péché dans le monde et dans la nature humaine. Donc Dieu agissait par amour, mais l'ennemi dit, mais non, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu a fait ça, ce n'est pas une preuve d'amour, bien au contraire. L'ennemi donc a toujours voulu nous faire douter que Dieu nous aime. Mais si Dieu est amour, pourquoi il t'arrive ceci ou cela? Mais si Dieu t'aime, pourquoi tu n'as pas tout réussi et tu n'es pas la personne la plus riche sur terre avec tout ce que tu voudrais? C'est la preuve que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, plus souvent, c'est la preuve que Dieu nous aime et que Dieu veut nous garder de nous éloigner. Parce que dans la Bible, Dieu a toujours souligné son amour pour son peuple. D'abord dans l'Ancien Testament. On pourrait prendre par exemple le Deutéronome, chapitre 7, verset 8, qui dit « Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Dieu donc avait fait sortir le peuple d'Égypte lors de l'Exode parce qu'il aimait son peuple. Chapitre 23, verset 5. « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, donc ce prophète que les ennemis d'Israël avaient fait venir pour maudire le peuple d'Israël. Dieu n'a pas voulu l'écouter et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu a toujours souligné son amour pour son peuple. Ésaïe 41, verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Puis dans le Nouveau Testament, Jean 3, verset 16, bien évidemment en premier, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Éphésiens, chapitre 5, verset 25, prend l'amour de Dieu comme modèle pour l'amour d'un mari pour son épouse dans le mariage. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Paul dit, « L'amour du Seigneur à travers Jésus-Christ pour son peuple, pour son Église, est tellement forte que c'est le modèle absolu pour montrer ce qu'est l'amour, comment exprimer l'amour. » Tout au long de la révélation biblique, la Bible nous montre que Dieu est amour et donc qui nous aime. Même parce que, et la Bible le souligne, parce que avant tout, cet amour est le fondement de la relation que Dieu nous invite à avoir avec lui. Dieu avait justement créé l'être humain dans le jardin d'Éden pour vivre en relation. Après que le péché ait fait cette séparation entre l'être humain et Dieu, Dieu a mis en place d'abord le système des sacrifices de l'Ancien Testament, puis a envoyé Jésus-Christ pour régler le problème du péché, pour permettre à nouveau une telle relation d'amour entre lui et ses créatures, entre lui et son peuple. C'est donc fondamental à cette relation, mais aussi la Bible souligne cet amour que Dieu a pour nous parce que cet amour va, si vous voulez, encadrer plein d'autres facettes de la révélation de la nature de Dieu, nous aider à comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait et comment il agit envers nous. Si on retourne à nouveau dans Jean chapitre 3, verset 16, lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Sachant que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne subisse plus le salaire de son péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans le verset 6 du passage que nous avons lu ensemble dans Exode 34, il est dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Il peut être miséricordieux parce qu'il est ce Dieu d'amour qui nous aime et qui désire établir une relation d'amour avec nous. Son pardon, donc le pardon que nous recevons de notre péché est lié, c'est le fruit de son amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il désire à nouveau rétablir cette relation et trouver le moyen de nous sauver. Comme disait le psalmiste dans le psaume 130, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, le Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Si tu gardais le souvenir de nos péchés, si tu n'étais que jugement et tu n'appliquais que pure justice, qui pourrait se tenir devant toi ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus apporter le salut, rendre le salut possible, rendre le pardon du péché possible, et donc le rétablissement de cette relation possible. Et il est important de garder cette révélation centrale de l'amour de Dieu dans notre image de Dieu. Parce que parfois, l'être humain, dans sa religiosité, justement, a tendance d'oublier que Dieu est amour. Il occulte cette notion de la vue et il ne pense qu'à la justice de Dieu. Car certes, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, qu'il y a un jugement, mais parfois, cela prend le dessus sur l'amour, alors que la Bible nous dit que l'amour de Dieu est venu et s'est manifesté en Jésus-Christ pour prendre le dessus sur le jugement. Notre image de Dieu va donc influencer, d'une part, le message que nous annonçons, le genre de Dieu que nous proclamons. Ah, est-ce que c'est un Dieu dur ? Qui est que justice, qui attend que faire souffrir les gens, ou est-ce que nous annonçons le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui est venu subir lui-même les conséquences de notre péché, qui nous a aimés à tel point qu'il a subi les souffrances d'une mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Mais au-delà du message que nous annonçons, l'image que nous nous faisons de Dieu va aussi affecter notre comportement. Ma manière de me comporter dans la vie reflétera l'image que je me fais de Dieu. Et je rappelle qu'en Galates 4, 19, l'apôtre Paul disait qu'un des objectifs dans la vie chrétienne, c'est que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, on est censé connaître et admirer la nature de Christ à tel point que nous invitons le Saint-Esprit à venir nous transformer à l'image de Christ et où nous cherchons à être imitateurs de Christ. Mais si nous perdons de vue cet amour que Dieu a révélé, et la grâce qui découle de son amour, d'une part, nous n'allons plus vivre ce que la Bible appelle la joie de notre salut. Qu'est-ce que disait Jésus quand il racontait cette parabole ? Il disait, celui à qui beaucoup a été pardonné aime beaucoup. Quand on sait qu'on est destiné à la mort éternelle, que ce que moi j'ai fait méritait la mort, mais que Dieu même, à tel point qu'il a envoyé son Fils unique, subir ce que moi j'aurais dû subir à cause de mes fautes, et que grâce au fait que lui a pris ce châtiment, moi je suis libéré, forcément, c'est une bonne nouvelle, comme disaient les apôtres. C'est quelque chose qui nous rend heureux, qui nous donne cette joie de savoir, ouf, je n'ai plus cette attente terrible dont parle la Bible, du jugement à venir. Au contraire, nous pouvons regarder vers l'avenir en attendant simplement le retour de Jésus pour être avec lui pour l'éternité, avec celui que nous aimons plus que tout autre, au lieu d'attendre avec crainte ce jugement à venir. Mais le problème, c'est que si on oublie que Dieu est amour, si on oublie que parce que Dieu est amour, il nous a pardonné en Jésus-Christ, alors effectivement, à nouveau, on prend ce fardeau tellement lourd de prendre nous-mêmes la responsabilité de payer à nouveau pour notre péché. On oublie que Dieu a déjà pris sur lui la condamnation de notre péché. Et au lieu de cela, donc, on reste dans une espèce de crainte où tout le temps, on est en train de regarder chétivement si Dieu ne va pas envoyer le foudre sur nous parce qu'on a fait telle ou telle chose et qu'on a oublié que Dieu, dans son amour, a déjà tout pourvu pour nous pardonner. Déjà donc, nous ne vivons plus sous la grâce parce qu'on a repris ce fardeau de notre péché, mais on prive les autres de cette grâce et de la joie de connaître l'amour de Dieu. Si on est parents à ce moment-là, on prive nos enfants de la grâce de Dieu. On révèle souvent dans notre manière de traiter nos enfants l'image que nous avons de Dieu en tant que Père. Puisque la Bible nous dit que Dieu est notre modèle dans notre manière d'élever et d'éduquer nos enfants. La Bible met en garde les parents dans ce sens en Colossiens 3, verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Si notre Dieu est un Père dur, sévère, qui est là que pour faire justice, qui est là que pour punir, qui ne donne jamais évidence de son amour, alors ça va se reproduire dans notre relation avec nos enfants. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas ainsi. Heureusement pour nous. Si Dieu n'était que justice, qui pourrait subsister devant lui? On le prive, on prive également nos frères et sœurs dans la foi de la grâce de Dieu. En mettant sur eux un poids de perfection qu'aucun être humain n'est capable de porter. Et on prive aussi les non-chrétiens autour de nous de découvrir cette grâce de Dieu, parce que tout ce qu'on met sur eux, c'est cette attente terrible de jugement. Matthieu 7, versets 1 et 2, Jésus, par contre, mettait ses disciples en garde lorsqu'il a dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » On a donc tout intérêt à regarder les autres avec le regard qu'on espère que Dieu a envers nous dans son amour. D'avoir ce regard d'amour et de pitié que Dieu a envers nous quand on regarde les autres, qui plutôt que de simplement condamner, un peu à l'image des disciples que Jésus appelait les fils de tonnerre, tellement il voulait faire appel aux foudres de tomber sur les gens autour d'eux parce qu'il les trouvait trop condamnables, Ben, le Seigneur dit, attention, parce que la mesure que vous utilisez sur les autres, ben, apparemment, c'est l'image de ce que vous considérez être la grâce de Dieu. Donc, ce qui est bon pour eux est bon aussi pour vous. Donc, je vous appliquerai la même. Ce n'est que justice. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et racontez la parabole de ce méchant serviteur, où dire vous ne pouvez pas d'un côté vouloir recevoir la grâce si vous n'êtes pas prêt après à faire grâce aux autres. Notre image de Dieu donc va influencer notre manière de vivre et va donc aussi influencer notre relation avec Dieu et du coup notre destinée. Car quand on regarde l'image de Dieu présentée dans la Bible, Dieu n'est pas ce maître sévère, en train d'attendre avec un grand bâton. Vous savez, parfois vous parlez avec des gens et vous avez l'impression que leur Dieu, c'est ce maître sévère avec un grand bâton qui est juste là à scruter le moindre détail de la vie dans l'espoir qu'ils vont faire la moindre chose simplement pour pouvoir leur taper dessus. Ce n'est pas ça l'image que Dieu présente dans la Bible. Il présente plutôt l'image d'un Père dans les cieux qui nous aime et qui désire nous sauver, qui désire nous faire grâce, qui désire qu'on se tourne vers lui. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrive à la repentance. C'est ça le désir de Dieu. Ézéchiel 33, verset 11, nous dit que Dieu, puisqu'il est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux et compatissant, il n'est pas là à attendre en disant « Oh, vas-y, fais une bêtise comme ça, je t'aurai. » La dernière chose, nous dit la Bible, que Dieu veut faire, c'est de voir appliquer le salaire du péché. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Donc, c'est cet amour qui est central à l'image de Dieu tel qu'il se présente à nous, tel qu'il se révèle à nous dans la Bible. Je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu dit, je suis un Dieu d'amour, riche en bonté et en fidélité, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, et le péché. C'était déjà en soi une bonne nouvelle, je pense, pour le peuple d'Israël qui venait de se rebeller contre Dieu, au point que Moïse, donc, a balancé les tables de la loi par terre en disant, bon, ben maintenant, c'est fini. Dieu l'appelle à nouveau en disant, reviens, on va recommencer à nouveau. « Car je suis celui qui pardonne la rébellion et l'iniquité et le péché. Je ne désire pas que le méchant meure. Ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Parce que Dieu, donc, est avant tout un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Donc, de la même manière qu'il ne faut jamais perdre de vue l'importance de l'amour de Dieu et des conséquences de l'amour de Dieu, la Bible nous dit qu'en même temps, ce Dieu d'amour reste un Dieu de justice. La justice reste un aspect de sa nature. Et donc, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême où on n'a plus que, soi-disant, amour. Quoique on va voir que selon la Bible, ce n'est pas du tout de l'amour. Et l'autre extrême, donc, où on occulte toute notion de justice contre le péché. Dans la suite de cette révélation devant laquelle Moïse a adoré, donc après avoir parlé du fait qu'il soit miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, Dieu continue, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Certes, jusqu'à 3 ou 4 générations, en comparaison avec les 1000 générations de l'effet de son amour, pour montrer l'écart et l'effet de son amour, mais quand même, même ce Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, ne tient pas le coupable pour innocent. Important de se le rappeler parce que autant il y en a qui occultent de vue l'idée de l'amour de Dieu et les conséquences de l'amour de Dieu, autant de l'autre côté, il y a des gens qui occultent l'aspect de la justice de la nature de Dieu et de son désir de voir justice faite dans sa création. Et ils disent qu'il n'y a plus que pardon et grâce, même si finalement on n'a pas, on a ni besoin de pardon, ni besoin de grâce, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de justice. Ils vont jusqu'à dire parfois que ce Dieu de jugement a disparu avec la fin de l'Ancien Testament, et n'existe plus. Il a été remplacé par un Dieu d'amour et de bons sentiments dans le Nouveau Testament qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Ce Dieu qui était en Jésus, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, sur la croix en train de réconcilier le monde avec lui-même. Jésus aussi rendait témoignage à ce Dieu unique, disant qu'il était venu nous conduire à l'éternel. Si on retourne à nouveau dans Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, disait Jésus, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et en Jean 14, verset 6, il disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas venu pour établir un concurrent au Père, au Dieu d'Israël de l'Ancien Testament, mais pour nous donner la possibilité de connaître le seul vrai Dieu qui s'est révélé dans toute la Bible. Si le jugement donc n'existe pas, pas besoin de pardon, pas besoin que Dieu nous fasse grâce, pas besoin finalement que Jésus aille jusqu'à la croix. Parce que si Dieu finalement décide de dire « Oh ben, on va dire que le péché n'existe plus », que vous êtes tous gentils, vous irez tous au paradis et qu'il n'y a plus de problème. Jésus a souffert pour rien. Jésus est mort sur la croix pour rien parce que Dieu pouvait juste dire, bon bah écoute, on va changer de plan. On va dire que nouvelle règle de jeu, plus de péché, plus de jugement, plus de problème, vous êtes tous sauvés et accueillis. À ce moment-là, la seule chose que Dieu justifierait, ce serait l'injustice. Parce que, selon ça, on pourrait tout faire comme voulait, tous les mauvais coups imaginables, se laisser aller au plus pire de nos péchés, et Dieu dirait à la fin, c'est pas grave. Parce que finalement, bah, il n'y a que amour, il n'y a que pardon, il n'y a que grâce, il n'y a que salut. Donc, même si vous avez été la pire ordure sur terre, je m'en fiche, c'est pas grave. Je vous accueille. Dans Apocalypse, chapitre 6, on voit ce désir de justice souligné quand il est mis que quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Tous ceux qui donc ont subi le martyre pour Jésus-Christ, qui disent « Jusqu'à quand est-ce que tu vas attendre pour nous faire justice ?» Nous, on a subi injustement des violences. Quand est-ce que tu vas faire justice ? Alors, selon l'image de Dieu de certains, Dieu pourrait dire, ah ben, écoutez, de quoi vous vous plaignez, taisez-vous, profitez de la vie que je vous donne. Si j'ai envie de donner la vie à ceux qui vous ont fait ces injustices sans rien leur demander, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais on voit tout au long de la Bible ce désir, cet intérêt pour la justice où Dieu dit, ne vous inquiétez pas, je suis celui qui est juste, je suis celui qui fera régner la justice dans ma création, qui réglera tous les comptes lorsque je reviendrai. Pour ça que donc, en Romains 12, verset 19, l'apôtre Paul dit aux chrétiens que s'ils subissent des injustices, ben, ils n'ont pas à faire des mauvais coups en retour. Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Sous-entendu, « Laissez la colère de Dieu s'en occuper. » Faire justice, ce n'est pas ton rôle, c'est le rôle de Dieu. « Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc il dit, si vous n'arrivez pas à avoir justice dans ce monde, bah, ne laissez pas cela remplir vos pensées, remplir votre cœur d'amertume, vous attrister à tel point qu'après bah, vous êtes écrasé par ce fardeau, cette notion d'injustice que vous avez subie. Donnez-le à moi et sachez que moi je m'en occuperai. Même s'il n'y a personne sur terre qui veut vous faire justice, au dernier jour, celui qui a été injuste à ton égard aura à me rendre des comptes. C'est Dieu qui fait justice. Pour ça, il peut dire, alors ne rendez pas le mal pour le mal. Vous allez juste empirer des choses et subir vous-même les conséquences. Mais faites du bien, bénissez ceux qui vous font du mal et laissez-moi m'en occuper. Dieu dit, c'est moi qui jugera le péché le jour où Jésus reviendra. Sans l'œuvre de Jésus, donc, pas de justice, pas de salut. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, mais regardons ce qu'il dit à nouveau en Ézéchiel 33. « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous ? » Dieu a tant aimé le monde qui qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que finalement, ce Dieu d'amour reste un Dieu de justice. Il ne dit pas, j'enlève toutes les règles de justice et j'accepte toute injustice sans rien dire. Le Dieu qui a dit, le salaire du péché, c'est la mort, dit toujours, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis un Dieu d'amour, c'est pour cela que je vous avertis que le salaire du péché, c'est la mort. Par contre, ce qu'il dit, c'est que puisqu'il est un Dieu d'amour, il est prêt à subir dans la personne de Jésus la mort qui est le salaire de nos péchés. Mais pour cela, il dit, il faut revenir à moi. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais qu'ils arrivent à la repentance. Si Dieu peut dire, tel que tu es, je t'accueille. Tel que tu es, tu puisses venir à moi. C'est uniquement si on passe par Jésus-Christ. C'est uniquement parce que à ce moment-là, la justice de Dieu est satisfaite. Parce qu'il y a eu mort comme conséquence de notre péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas de dire « Je vous aime et donc je vous dis tout ce que vous faites, ce n'est pas grave. » L'amour de Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ qui dit « Moi, je suis au courant de tous tes péchés. » Même des péchés qui ignorent les autres. Mais je suis prêt à subir, moi, les conséquences de tes péchés. Si tu viens à moi, si tu me fais confiance pour me donner ta vie, je subis, je prends sur moi les conséquences, le salaire de ton péché. La Bible nous dit que cette justice n'est pas contraire à l'amour de Dieu, mais que la justice est signe de l'amour de Dieu. En Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Il n'y a pas de contradiction entre l'amour et la justice de Dieu. Mais Dieu dit, puisque je t'aime, je suis prêt, moi, à subir la justice. Je suis prêt à subir, moi, le châtiment de tes péchés. C'est pour ça que les apôtres ont toujours annoncé, repentez-vous. Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, repentez-vous et venez à lui. Puisqu'il faut que la justice soit satisfaite. Mais Dieu, parce qu'il aime, a trouvé le moyen de satisfaire sa justice. C'est pour ça que la Bible dit, « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Parce que Christ a subi le salaire de notre péché à partir du moment où on s'est confié en lui. Il ne faut jamais oublier que Dieu est juste, mais surtout il ne faut jamais oublier que Dieu est amour. Et puisqu'il est amour, il a trouvé le moyen de satisfaire sa justice, tout en nous sauvant. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 3, il parle de cette justice en Jésus-Christ qui a permis à Dieu de justifier celui qui a commis des injustices, tout en restant juste, parce que Jésus-Christ a pris sur lui le salaire de notre péché. Et finalement donc, comme lorsque Moïse se rend compte que ce Dieu qui a appelé le peuple d'Israël est l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Devant ce Dieu-là, Moïse s'est incliné à terre et l'a adoré. Savoir que Dieu, le Dieu de justice, le Dieu qui ne laisse pas l'injustice gagner dans sa création, mais qui a promis de faire régner la justice, le fait que ce Dieu-là est aussi un Dieu d'amour, qui a envoyé Jésus-Christ pour satisfaire la justice sur ma vie, sur notre vie, malgré notre péché, cela doit aussi nous encourager à réagir de la même manière que Moïse, de nous incliner à terre et d'adorer ce Dieu d'amour qui nous offre sa justice. Ce matin donc, ne nous trompons pas de Dieu dans notre adoration. Ne perdons pas de vue le Dieu qui se révèle à nous, mais adorons-le. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de justice. N'occultons pas la justice de Dieu dans l'espoir d'après pouvoir vivre comme on veut sans conséquence. Parce que Dieu fera régner la justice. Mais ne perdons pas de vue non plus qu'il est avant tout un Dieu d'amour, qui a trouvé la solution pour satisfaire la justice, qui nous offre cette solution pour satisfaire sa justice en Jésus-Christ, qui a subi les conséquences de nos injustices, si nous sommes prêts à venir à lui et à lui consacrer nos vies. Si donc, cela fait un moment déjà qu'on suit ce Dieu-là, qu'on adore ce Dieu-là. Veillons à ne pas perdre de vue sa nature qu'il a révélée. Si ce n'est pas déjà le cas, aujourd'hui encore, le Seigneur vous invite à vous repentir, vous invite à venir à lui, à changer de conduite pour vivre, à venir accepter cette offre de son amour, produit par son amour. Il n'y a pas de moyen d'échapper à la justice, sinon il n'y a plus de justice dans la création de Dieu. Mais Dieu a trouvé le moyen de dire, même si vous êtes injuste, moi je vous justifie, en subissant moi-même les conséquences de votre péché. Donnez-moi votre vie et je règle votre problème de justice. À ce moment-là, donc, je ne peux que vous encourager à faire confiance à lui, à lui consacrer votre vie et à recevoir cette offre que Dieu fait de prendre lui les conséquences de votre péché, pour que vous puissiez être justifiés par lui.